Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mardi 16 décembre 2014. Bienvenue à cette émission. Cette émission, Le Grand Dialogue, parle aujourd'hui de la possibilité qu'il y ait un accord entre le gouvernement malien et les groupes armés dans le Nord. Cette possibilité est soutenue par la France et les pays voisins du Mali. Alors, nous aurons trois axes, donc trois questions dans ce débat. Une signature est-elle possible en janvier prochain à Alger? Jusqu'où iront les concessions? Et enfin, en dernière position, où se situent les risques de blocage dans ces pourparlers? Alors, pour parler de cette question, nous aurons comme invité, ils sont trois, Boubacar Touré du parti Rassemblement pour le Mali, RPM, parti de la majorité présidentielle, et nous aurons également un parti de l'opposition représenté par Amadou Goïta, le parti socialiste. Nous aurons également un membre de la société civile, Sbeti Ag Akados de la société civile du Nord. Moi, je suis Famoussa Sidibé. Gagné Kanté est à la technique.
Studio Tamani.
La France et les pays voisins du Mali souhaitent un accord rapide de paix, un accord de sortie de crise. Donc, il faut aller vite et trouver un accord car la situation sécuritaire dans la zone est très précaire. Alors, nous allons donc entamer ce débat avec cette première thématique. Une signature est-elle possible en janvier prochain à Alger? La question s'adresse tout d'abord à Boubacar Touré du RPM.
Je dis bonsoir aux auditrices et auditeurs des différentes radios connectées sur le studio Tamani. Ta première question, tout en évoquant la volonté de la France, non, c'est plutôt la volonté de l'ensemble du peuple malien d'arriver rapidement à la paix qui va être le point de départ du développement global de l'ensemble, sur l'ensemble du territoire malien. Alors, un accord est-il possible? Il faut que l'accord soit possible. Et tout ce qui est entamé du début de ces discussions, du début de cette crise qui est souvent revenue dans notre pays, il y a toujours eu des discussions, des négociations. L'objectif, c'est arriver à une paix durable. Et pour cela, il faut qu'il y ait la bonne foi et la disponibilité, pas pour l'intérêt de ceux-là qui sont délégués pour cette discussion, mais pour l'intérêt du Mali, mais aussi pour l'intérêt de la sous-région. Parce que la situation d'insécurité dans la sous-région ne laisse personne indifférent. Donc pour ça, je dis oui, un accord est possible à Alger, et un accord qui intégrera et le maintien de l'intégrité territoriale, la souveraineté, le principe républicain démocratique, la laïcité, etc.
D'accord. Alors, Amadou Goïta, la possibilité qu'il puisse y avoir un accord à Alger en janvier prochain?
Je vous remercie. Je voudrais dire bonsoir aux auditrices et aux auditeurs du studio Tamani. Et bonsoir également aux deux grands frères. Effectivement, un accord est impératif, puisqu'il sera le couronnement du processus de négociation entamé à Alger depuis 3 ou 4 mois. Le souhait de l'ensemble des peuples maliens, c'est de parvenir à une paix durable. Une paix qui respecte l'intégrité territoriale du Mali, qui respecte la forme laïque et républicaine, et qui respecte également l'unité et la souveraineté de notre pays. Je pense que la partie malienne est quand même engagée. Voilà, c'est en ce sens que les autorités maliennes, depuis un certain temps, ont fait du dialogue l'arme fatale. Et nous espérons que nous allons parvenir à un accord global, un accord pour la paix et pour la sécurité.
Alors, est-ce que la société civile est aussi optimiste que les partis politiques? Là, je m'adresse à Sbeti Ag Akado.
Merci de m'avoir donné la parole. Évidemment, la société civile ne peut pas être pessimiste par rapport à l'éventualité d'une signature d'un accord. Sauf que, au-delà des partis politiques, nous, nous avons un certain nombre de préoccupations, n'est-ce pas, par rapport à l'allure que prennent les choses quand on entend des ordres qui nous sont donnés de l'extérieur et que nos autorités elles-mêmes ne réagissent pas par rapport à ces ordres-là.
À quoi faites-vous allusion ?
Je fais allusion aux préoccupations de Le Drian, qui nous donne un calendrier. Nécessairement, il faut aller en janvier, comme ils l'ont fait par rapport à l'accord de Ouaga, comme ils l'ont fait par rapport à toutes les actions qui ont été menées ici, les élections présidentielles. C'est comme si nous ne maîtrisons rien.
En quoi ceci est-il gênant ?
C'est gênant dans la mesure où nous sommes les malades et nous savons ce qu'il nous faut pour être soignés. On doit nous demander qu'est-ce qu'il nous faut pour être guéri. Les solutions ne doivent pas toujours nous venir de l'extérieur. Je veux dire par là qu'un accord est possible si les Maliens sont écoutés. Les Maliens ont parlé, les réfugiés ont parlé, les déplacés ont parlé, et tout le monde a parlé, et je pense que les gens sont fatigués. Ils sont pressés de voir ces accords-là. Les accords sont possibles si les pouvoirs prennent, n'est-ce pas, prennent en compte les préoccupations des Maliens et en font une arme face à ceux-là qui, je ne sais quoi encore, je ne sais que dire, pourquoi ils s'acharnent à vouloir nous retarder ces accords-là. Parce que nous, par accord, nous entendons la retrouvaille des Maliens autour du droit, autour, n'est-ce pas, de ce qui peut les unir. Et ce qui peut nous unir, je pense que la société malienne l'a suffisamment exprimé. Il n'y a pas un double langage. Les accords sur la base du droit sont possibles. Mais si ce n'est pas le cas, il peut y avoir des accords. Mais des accords qui n'engageront que les parties qui les ont signés.
Alors l'urgence qu'il puisse y avoir un accord au mois de janvier prochain à Alger, le déclic a été donné par la France à travers son ministre des Affaires, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Alors aujourd'hui, un accord obtenu au forceps, est-ce que cela sera applicable, Amadou Goïta ?
Non, pas du tout, pas du tout. Moi je voudrais rappeler à M. Le Drian que le Mali est un pays souverain. Le Mali est un pays indépendant. Je ne pense pas qu'on a besoin d'un ultimatum de la part de la France. Si la France devait avoir un ultimatum, ça devrait être à l'égard du MLLA, du HIA, puisque nous savons tous que ces groupes qui ont pris les armes contre le Mali ont bénéficié quelque part du soutien et de l'accompagnement de la France. Un processus de paix ne se construit pas aux forceps. Ça se construit lentement, mais sûrement. Et surtout, hein, si j'ai bonne mémoire, c'est le même ultimatum qui avait été posé par le président français quant au calendrier des élections présidentielles, en disant qu'il serait intraitable. À l'époque, nous, on a souhaité que cet ultimatum soit surtout adressé à ceux qui ont pris les armes, qu'on ne devait pas aller à une élection sans que Kidal ne soit malien. Aujourd'hui encore, c'est un ultimatum qui est posé par un ministre français à l'égard de tout un peuple malien. Je pense que c'en est de trop.
Pensez-vous que le Mali puisse avoir le choix ?
Ah, bien sûr.
En quoi
nous avons le choix, puisque nous sommes un État souverain, nous sommes un peuple responsable. Et ce n'est pas la première crise du Mali. Nous avions connu la crise du Nord en 63. Nous avons réglé la crise du Nord en 91 à travers 92 plutôt, le pacte national, l'accord de Tamaracède, l'accord d'Alger, l'accord de Ouaga. Je pense qu'on est un peuple suffisamment mature pour s'assumer. Et je ne pense pas qu'un ultimatum de la part des autorités françaises doit pouvoir faire changer le cours de l'histoire.
Alors, Boubacar Touré, vous êtes du parti de la majorité présidentielle, le parti du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Pensez-vous qu'encore une fois, la France impose son dictat sur le Mali ?
Je n'ai pas de commentaire et je ne prends pas la question sous cet angle-là. Je vous ai dit à l'entame de mes propos que janvier est même trop tard. On n'a que trop duré dans cette situation-là.
Donc vous êtes sur la même longueur d'onde que la France.
Non, ne me parle pas de la France. Je dis, et remettre même à demain, c'est déjà tard. Imagine depuis quelques années la souffrance des enfants qui ne vont pas à l'école, des femmes qui sont brimées et le développement arrêté net. Rien que pour ça, un jour de plus n'est pas mon vœu. qu'un pays et un responsable de ce pays annonce une date, peut-être étant acteur, il sait, parce que dans la marche pour la libération depuis Conan, c'est pas le Mali qui a arrêté le processus pour rentrer à Kidal. Ça a été décidé ailleurs. Et jusque-là, nous subissons cela. Donc je ne me mets pas dans la logique parce qu'un tel a dit. J'ai dit qu'à partir de la souffrance des enfants, des femmes, de nos frères qui sont dans cette partie d'insécurité, bien que l'insécurité, on rencontre également un peu partout à travers le monde, mais ce qui nous concerne aujourd'hui et ce débat-là, c'est le nord du Mali. J'ai dit, attendre encore 24 heures sans arriver à un accord, mettre fin au bruit des Kalachnikovs, à des dynamites qui sortent n'importe comment dans cette partie du Mali, me fait si mal que si l'accord pouvait être signé dès demain. C'est tel est mon vœu. Mmh.
Mais Boubacar Touré, que dites-vous à ceux qui sont frustrés aujourd'hui, aux Maliens qui sont frustrés, d'entendre ces propos de la part des ministres français?
C'est leur droit. C'est leur droit. Mais j'ai dit la question, moi je l'aborde sans me mettre dans un carcan. J'ai dit en tant que Malien tout court, même les Maliens frustrés ou non de cette prise de position officielle et publique d'un État, la France, et d'un ministre de cet État-là, en dehors de cela, il n'y a pas un Malien qui ne souhaite pas la fin de cette crise dès demain.
Êtes-vous frustré d'entendre cela?
Ça importe peu. Mmh. Pour moi, que la question ait sa solution immédiatement. Tel est mon vœu et le vœu le plus ardent.
Mmh. Alors, un accord obtenu au forceps, est-ce que vous pensez que cela sera applicable?
La discussion, ce serait entre des Maliens. Entre des Maliens, une partie qui, en un moment donné, a choisi le bruit des armes, qui, de plus en plus, revient à la raison. Parce qu'au début de ces discussions à Alger, phase, première phase, deuxième, troisième, je n'en sais plus, et à ses débuts, on ne parlait pas déjà de dissidence entre ceux-là qui avaient décidé de prendre les armes. Donc tout résultat qu'on obtiendrait en janvier ou avant, je ne le qualifierais pas de forceps, mais plutôt que des Maliens sont maintenant venus à la raison, ont compris que si l'arbre n'a pas été la solution radicale et définitive en Europe, les deux guerres qui se sont suivies, d'autres guerres qui ont connu le même cheminement, et c'est autour de la table que la solution est venue. J'ai dit peut-être que la raison est en train de s'imposer dans la discussion. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des groupes qui avaient privilégié les armes qui aujourd'hui sont en train de privilégier le dialogue. Et tout le monde étant fatigué, il faut qu'on arrive rapidement à ça. Donc, je ne qualifie pas le futur résultat de forceps, parce que la discussion, dans tous les cas, c'est entre Maliens. Et les différents blocages qui peuvent, comme c'est déjà dans ta feuille de route pour le débat, je réserve le développement. Mon développement, je m'arrête là, en attendant qu'on arrive à ces aspects du débat.
Nous arriverons à ces aspects du débat. Alors, nous allons observer quelques secondes de pause avant de revenir vers la société civile pour qu'elle nous donne son avis sur les propos évoqués par les différents partis politiques.
Vous écoutez Studio Tamani ? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Studio Tamani, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook et également notre compte Twitter. Et n'oubliez surtout pas de faire un tour sur notre site web www.studiotamani.org où vous pourrez trouver toutes nos productions depuis le début des activités du studio. Alors aujourd'hui, je vous le rappelle, nous parlons de la possibilité qu'il puisse y avoir un accord définitif de paix à Alger avant la signature de tout cela à Bamako. Alors, nous avons comme invité Boubacar Touré du parti Rassemblement pour le Mali, RPM, parti de la majorité présidentielle. Nous avons également un représentant de l'opposition, Amadou Goïta, parti du Parti Socialiste. Et nous avons également un représentant de la société civile, Sbeti Ag Akado, représentant donc de la société civile du Nord. Alors, pour parler donc de cette deuxième partie qui évoque, les concessions jusqu'au où iront les concessions dans ces pourparlers. Nous allons en débattre, mais juste avant, nous allons demander à Spéti Agado de la société civile de nous donner son point de vue par rapport à l'application, à l'applicabilité du futur accord qui sera signé entre le gouvernement malien et les groupes armés. Spéti, que pensez-vous de l'implication de la France? Et pensez-vous qu'elle doit avoir une place, qu'elle doit avoir son point de vue sur le suivi qu'il faut y avoir aujourd'hui pour ce futur accord?
Merci. Je rectifie d'abord. Je souhaiterais que vous me présentiez comme
membre
de la société civile tout court. Parce que les histoires de nord, de sud, d'est, moi je ne me reconnais pas là-dedans.
D'accord.
N'est-ce pas?
Nous en prenons note.
Pour revenir sur cette question de la France, nous estimons que la France a joué l'essentiel de son rôle, c'est-à-dire nous permettre de respirer, parce qu'il nous est arrivé un moment où on ne respirait plus. Elle est intervenue, elle a vraiment apporté ce qu'il faut aux Maliens pour s'asseoir et réfléchir. Mais si par-delà, cette intervention, elle continue, n'est-ce pas, de nous imposer un calendrier, nous sommes désolés, nous de la société civile, je pense que nous avons été plus visibles, plus parlants que les partis politiques. Et de, je le répète, de Menaka à Diboli et de Taoudeni, n'est-ce pas, à Sikasso, nous avons dit à peu près la même chose.
D'accord.
Sur les éléments du pré-accord.
Cette partie est comprise, hein, mais la question que je pose maintenant, est, quelle sera la part de la France dans le suivi des futurs accords?
Mais la France, nous attendons d'elle qu'elle fasse elle-même qu'elle se regarde elle-même, ce qu'elle n'accepte pas, il ne faut pas qu'elle permette que d'autres l'acceptent.
Comme quoi?
Comme nous arracher la paternité de ce débat-là et nous imposer des voix. Le débat, je l'ai dit tout de suite, la société civile a mené son débat. Elle a donné des conclusions par rapport aux éléments de l'accord. Nous avons donné, des recommandations extrêmement pertinentes qui émanent des préoccupations de tous les Maliens. Si la France ferme les yeux sur ça pour nous dire d'aller à un accord, qu'ils nous disent exactement en ce moment sur quoi on peut s'accorder. Il ne s'agit pas d'aller à un accord, de nous forcer à faire un accord. Il s'agit de nous dire finalement, accordez-vous sur ça. Sur tel point. C'est tout ce qui nous reste. Maintenant, si elle nous écoute, qu'elle regarde ce que nous avons proposé et qu'elle oblige les autres à n'est-ce pas ?
Vous qui ?
Les autres, c'était nous, la société civile, nous avons fait des propositions et qu'elle amène les autres groupes à s'inscrire là-dedans parce que nous n'avons rien dit d'anti-républicain. Ce que nous avons dit est réellement dans le cadre de l'unité de ce pays-là. Et tout le monde, en principe, doit s'inscrire là-dedans.
Alors, Amadou Goïta, est-ce que la France, est, au même titre que la communauté internationale, doit forcer les acteurs à appliquer ce qui va être signé comme accord de paix?
Je ne pense pas que la France doit forcer, surtout accompagner. D'ailleurs, moi, je suis un peu surpris que le grand frère Bou ne soit pas offusqué par les propos de Ledrian, lui dont le parti et les candidats avaient promis l'honneur du Mali, surtout des Maliens. Je pense que quelque part, l'honneur des Maliens a été entaché. J'aurais préféré que nous remettions tout ça sous la table et dire que nous sommes un État souverain. Autant nous avons apprécié le rôle de la France, la mission de la France, l'intervention de la France, autant nous assumons aussi que la France doit nous respecter. Et nous pensons que de telles instructions ne pourront que faire retarder le processus. Il y a un processus qui est en cours. Comme je l'ai dit, l'ultimatum de la France doit surtout s'adresser au MLNA, et ses, je ne dirais pas ses acolytes, mais MLNA et ses compagnons. Nous savons que le MLNA n'existe que par la volonté de la France. Aujourd'hui, nous nous sommes engagés dans un processus. Il y a un document qui a été soumis aux deux parties, document que nous avons étudié. Et je pense qu'il y a un thème qui porte sur ça, si je ne m'abuse. Mais je pense que la communauté internationale a son rôle à jouer, la France a son rôle à jouer, mais ce n'est pas de nous imposer. On n'impose pas la paix. La paix est une volonté, la paix est un engagement. Brusquement, la France se rend compte qu'il faut aller à la signature d'un accord de paix d'ici le 31 janvier. À quel prix? à quel coût et au détriment de qui? C'est des questions fondamentales.
Revenons un peu en arrière, Amadou Goïta. Lors des élections, François Hollande disait qu'il serait intraitable pour les élections. Vous étiez dans le gouvernement. Qu'est-ce que cela vous a fait?
Non, on a estimé qu'autant le Mali était pressé de revenir à l'ordre constitutionnel, autant on aurait souhaité que François Hollande soit surtout intraitable par rapport à ceux qui ont pris les armes et qui refusaient la rentrée de l'armée malienne à Kidal. Je crois que j'ai accordé une interview sur RFI, telle fut mes propos. Je n'ai pas été compris par certains, mais aujourd'hui, l'histoire nous donne quelque part raison.
D'accord. Voilà. Alors, Boubacar Touré du RPM, que pensez-vous du suivi que la France doit faire aujourd'hui par rapport au futur accord qui se
passe? Non, je ne commencerai pas par ce que je pense par rapport à l'implication de la France, mais j'ai réagi. Quand M. Koïta dit qu'il est surpris de ne pas me voir offusqué, je crois qu'il ne m'a pas compris. J'ai dit que l'heure et la situation et la question que nous traitons aujourd'hui va au-delà des sentiments de frustration ou de ne pas être frustré. Ça va au-delà de ça. J'ai dit, je ne souhaite pas qu'on perde encore même 24 heures pour que l'intégrité du Mali ne revienne dans un Mali républicain, laïque. Si cela devait arriver demain, je suis partant. Le sentimentalisme, la question a dépassé cela. Qu'on soit offusqué ou non, l'ensemble des acteurs ont leur opinion sur la question. Et aujourd'hui, la France est acteur dans la recherche des solutions aux problèmes du Nord. Que ce soit des intérêts sains ou non, avoués ou non, la France fait partie des acteurs, comme nous tous Maliens, dans la résolution de la crise au Nord. C'est la République du Mali.
Cela lui donne c'est tout, la République... tous les droits?
Non, je n'ai pas dit cela. C'est peut-être ce que tu penses ou ce que tu veux. Et c'est la République du Mali, à travers le président intérimaire Diokounda, qui a sollicité l'intervention française à partir de Kona. Une lettre a été adressée dans ce sens pour l'intervention française. Avant et à partir de ce moment et maintenant, la France étant acteur, je ne suis pas surpris d'entendre l'ensemble des acteurs s'impliquer et se prononcer. Moi, en me prononçant, je dis, je ne souhaite même pas qu'on arrive à janvier pour trouver une solution définitive à cette question. Donc, je ne place pas la question dans un cadre sentimental, offusqué ou non. Je dis, on est pressé, il faut qu'on y arrive. L'offuscation est sentimentale. Maintenant, alors, par rapport à la question que tu as posée, pour me permettre de relancer, vas-y, repose ta question.
Non, je voulais savoir si, toutefois, le fait que la France ait intervenu pour sauver le Mali, le pays tout entier, lui donnait tous les droits.
Non, vous aussi. Il n'a aucun droit face à la gestion des affaires du Mali.
C'est pourtant ce qu'on croit.
Bon, moi je ne crois pas à ça parce que je dis, je souhaite ardemment qu'on ait la solution avant janvier.
D'accord, vous vous arrêtez là?
Je dis, je souhaite qu'on ait la solution avant janvier. Lui, il parle de janvier. Janvier, c'est même tard pour moi. Janvier, c'est tard, pourquoi? Parce que tous les jours qui passent, c'est des enfants, c'est des femmes, c'est une partie du Mali qui est dans le doute, dans l'incertitude, dans la peur, dans la panique, dans tout leur manque. Alors, donc janvier est même tard. Moi je pense on n'a aucun intérêt à focaliser ce débat. Si on rentre dans la politique politicienne, l'Afrique a trop de points de frustration.
D'accord. Alors,
de l'indépendance à aujourd'hui, si nous devrions prendre le chapelet pour compter le nombre de points de frustration, l'Afrique en a suffisamment. Il a fait allusion quand Hollande disait et il restera intraitable.
Sur la date des élections.
C'est un point de frustration. Mais pourtant, c'est une situation à laquelle tous les Maliens voulaient rapidement en finir.
Alors, nous avons vu plusieurs compromis de la part des différents groupes qui sont en négociation pour arriver à un accord définitif de paix. Aujourd'hui, ce qui est à constater, c'est que dans le rang de l'aile dure des groupes armés, à savoir la coordination, il y a une certaine division par rapport au contenu et à l'acceptation de ce qui est présenté comme accord de paix par la médiation. Alors pensez-vous, Amadou Goïta, que cette division arrange Bamako ?
Division des groupes armés ? Je ne pense pas. Moi, je pense que Bamako doit avoir sa feuille de route. Bamako doit avoir son calendrier. Et Bamako doit surtout avoir son tempo. Je ne pense pas que la division de ces groupes armés profitera au Mali. Au contraire, c'est les mêmes. Ils étaient là, ils sont partis. Aujourd'hui, ils disent également qu'ils sont avec nous. L'essentiel pour nous, c'est que l'État s'assume. Voilà pourquoi moi, je suis à l'aise quand je vois que le grand frère Bou, aujourd'hui, est pressé qu'il y ait un accord. Sinon, à l'époque, il était dit que 100 jours après les élections présidentielles, que les discussions devaient commencer avec les groupes armés. Malheureusement, il a fallu qu'il y ait Kidal pour que vous compreniez qu'on doit vite aller à un processus de paix.
Mais donc cela est extrêmement important. Est-ce que tu peux vraiment continuer ton avis sur la question?
Est-ce que Amadou Goïta peut terminer d'abord? Boubacar Touré, je vous donnerai la parole.
Je regrette.
Je vous donnerai la parole.
Le débat dépasse l'esprit partisan.
Je vous donne la parole
et
juste
si
après ces propos.
Si il rappelle les 60 jours,
je vous donnerai la parole.
Qui devait être prise en compte.
Boubacar Touré, je vous donnerai la parole juste après.
Ah non, mais qu'Amadou Goïta termine ses propos. Ses angles d'attaque.
Et il va le faire. Amadou Goïta.
Je pense que donc moi j'estime aujourd'hui que le gouvernement doit avoir son tempo, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, nous avons un document qui s'intitule « Projet de préaccord ». Ça nous appartient en tant que Maliens, et surtout au gouvernement malien, d'étudier à fond ce préaccord, de voir s'il est acceptable ou non pour consulter une base de négociation afin d'arriver à un accord définitif. Mais aujourd'hui, vouloir penser qu'on peut profiter de l'évolution de la situation entre ces groupes armés, je pense que quelque part, c'est tombé dans un piège. Voilà.
Alors, Spedi Agado, vous êtes de la société civile. Pensez-vous que ces concessions que l'on devra faire pour arriver à un accord définitif aujourd'hui de paix, ces concessions vont provoquer des remous sur le terrain?
Quelles sont les concessions, par exemple?
Les concessions qu'on demande à la fois au groupe armé et à l'armée malienne représentée par l'État. Est-ce que ces concessions vont avoir un résultat quelconque sur le terrain?
Moi, je suis d'abord un peu peut-être dépassé par les choses. Je ne vois pas quelles concessions on peut demander à ce pays-là encore qu'on n'a pas déjà faites. Je ne peux pas vous citer. Je vais faire la genèse de toutes ces concessions-là, mais l'une des premières, c'est d'avoir déjà accepté à nous asseoir devant des Maliens qui ont osé, malgré les supplications, malgré tout ce que malgré les implorations, ils nous ont attaqués, ils nous ont déstabilisés, ils nous ont enfoncés dans le chaos. Et nous avons accepté nous asseoir devant eux. Nous avons même accepté sortir de notre territoire pour aller nous asseoir devant eux. Quelle est la concession qu'on peut faire plus que ça? Qu'est-ce qu'on peut donner plus que nos cœurs et nos âmes? Nous avons tout donné. Et je crois que ceux qui veulent nous mettre la pression pour signer des accords, parce que pour nous, accord, c'est ce qu'on est en train de nous proposer là. Si c'est ça là, nous de la société civile, nous l'avons rejeté à 80% déjà. Et c'est revenu malheureusement sous le même angle. Et nous entendons nos pouvoirs, nous entendons ces groupes armés dont vous parliez tout de suite là, qui font semblant d'être divisés. Pour nous, c'est la même crème, qu'ils soient du MNLA, qu'ils soient du HCIA, qu'ils soient même des groupes sédentaires d'une manière générale. Tous ces gens-là ont été moulés par des intérêts matériels et ils sont en train de plomber la paix. Parce que quel que soit le forcing... Si on nous poussait à signer, n'est-ce pas, ce truc-là que nous voyons devant nous, qui consacre la division de notre territoire, ça n'amènera pas la paix. En tout cas, ça, c'est de notre point de vue, nous, société civile, nous sommes convaincus qu'il n'y ait pas question de se précipiter pour signer ce que nous voyons devant nous. Il va falloir le remanier et rejeter un certain nombre de choses Moi, j'entendais quelqu'un ce matin dire que dans le document, il n'y a pas autonomie, il n'y a pas. Mais c'est des gens qui ne savent pas lire entre les lignes.
D'accord.
Nous voyons ce qu'il y a entre ces lignes-là.
Nous avons compris ce point de vue et pourtant, ce document est rejeté par la plupart des groupes armés de l'aile dure, que l'on qualifie de l'aile dure. La coordination a rejeté donc une bonne partie du contenu de cet accord-là présenté par la médiation. Nous allons faire réagir Boubacar Touré du RPM juste après quelques secondes de pause.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux, notre page Facebook et notre compte Twitter, mais également notre site web www.studiotamani.org. Nous débattons aujourd'hui de la possibilité qu'il puisse y avoir un accord dans le dernier round qui est prévu pour le mois de janvier à Alger entre les groupes armés du nord du Mali et le gouvernement malien. Alors pour débattre donc de cette question, nous avons comme invité Boubacar Touré du RPM, parti du président de la République, et nous avons également un parti de l'opposition représenté par l'EPS et son président Amadou Goïta. Nous avons également un membre de la société civile malienne, Sbeti Ag Akado, là également pour parler au nom de la société civile. Alors cette troisième partie donc de notre débat est consacrée au blocage, aux différents blocages qu'il pourrait y avoir lors de ce dernier round à Alger. Alors juste avant d'entamer cette troisième partie, nous allons demander à Boubacar Touré de réagir par rapport à tout ce qui a été dit par ses prédécesseurs. Boubacar Touré, à vous.
Eh bien, Goïta me rappelait encore les 60 jours, la non-précipitation, mais pendant les 60 jours, il y a eu les assises au Nord, les assises sur la décentralisation, l'organisation des législatives. Donc, le temps n'est pas resté inoccupé. Et ceci dit, la question fondamentale qui a été posée aux autres portait sur...
La question fondamentale qui a été posée aux autres portait notamment sur la division au sein de ces groupes. Je demandais si cette division au sein de la coordination profitait à Bamako.
Bamako, vous parlez certainement du gouvernement. Ce qui reste vrai. On est resté longtemps dans ce système de vases communicants. Et des groupes qui naissent, qui se développent et qui s'éclatent, mais on est toujours resté dans cette pression de la rébellion. Le groupe doit prouver, divisé ou uni, ceux-là qui ont décidé de prendre des armes contre leur pays, ils doivent prouver dans ces négociations que de façon directe ou indirecte, de façon camouflée ou ouverte, qu'aucune disposition de cet accord ne menace nullement, ni maintenant ni après, l'intégrité du territoire, ni maintenant ni après la laïcité, ni maintenant ni après la République. Si c'est le cas, divisé ou uni, c'est le Mali qui sera uni autour de cet accord-là.
D'accord. Alors nous allons donc entamer cette troisième partie et nous allons parler des blocages qui pourraient y avoir lors de ce dernier round à Alger. Alors, mais justement, où se situent les blocages dans ce dernier round? Je m'adresse là à Amadou Goïta du Parti Socialiste, parti de l'opposition. Quels pourraient être les blocages?
Le premier blocage, c'est que nous n'avons pas compris pourquoi la médiation nous renvoie les mêmes documents qui avaient quand même été rejetés par l'ensemble du peuple malien, gouvernement, société civile, classe politique de façon générale. Puisque le document qui nous est présenté n'est que la mise en forme du document de synthèse. Tous les points saillants ont été maintenus. Ce document, contrairement à ce que les gens disent, les groupes armés ne peuvent pas avoir mieux que ce document.
Et pourtant, ils le rejettent.
Je me demande si ce n'est pas par tactique. Sinon, ils ont tout ce qu'il faut dans ce document. On ne parle pas de fédéralisme, certes, ni d'autonomie, Mais quand vous prenez le document de fond en large, quand vous prenez les questions politiques et institutionnelles, quand vous prenez même les principes et engagements généraux, vous prenez les questions de défense et de sécurité, vous prenez les questions de développement économique et social, les questions de réconciliation et des actions humanitaires, la période intérimaire, vous vous rendez compte quand même qu'on est allé plus qu'à un processus de décentralisation renforcée, puisqu'on permet à des régions d'avoir des organes exécutifs avec un pouvoir juridique, administratif et un pouvoir financier. En même temps, on crée même de la discrimination, puisque dans les documents, vous retrouverez même au principe engagement généraux qu'on veut même amener le Mali à réviser la constitution pour la création du Sénat, Sénat qui doit réserver une part large aux ressources andinores. Comme si, quelque part, au Mali, on avait un problème de représentativité des régions du Nord. Un quota est donné aux régions du Nord, tout ça pour satisfaire les groupes armés. Sinon, je pense qu'à l'Assemblée nationale du Mali, le Nord est valablement représenté. C'est un nordiste qui fut le premier président de l'Assemblée nationale, si je ne m'abuse. On va jusqu'à vouloir, dans le même document, donner un quota également par rapport au nombre d'élus. Le Nord aura un député pour 30 000 habitants, le Sud un député pour 60 000 habitants.
Ça, alors, c'est également... que souhaitez-vous aujourd'hui ?
Nous souhaitons tout simplement
à l'opposition,
que le gouvernement revienne aux fondamentaux. On a toujours souhaité qu'il y ait un front républicain.
Est-ce qu'il n'est pas trop tard ?
Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour aller à la paix. Je pense que quand on part à la paix, à la va-vite, ce sera toujours le retour au départ. Nous estimons aujourd'hui que les Maliens ont trop souffert. Nous avions failli.
Qu'est-ce qu'il faut changer dans ce
document ?
Qu'est-ce
qu'il faut changer dans ce document ? Il faut d'abord changer pratiquement le contenu de plus de 5 ou 6 titres. J'ai parlé tout de suite d'un quota de 50% de collectivités territoriales. Je pense que le Mali n'est pas... Nous sommes une nation avant d'être un État. J'ai parlé de quota également, de représentativité, sinon de représentation des ressources en Nord dans les postes de souveraineté du Mali. On n'a pas besoin de ça. On a également parlé du DDRR. Moi, j'ai l'habitude de dire que dans toutes les résolutions qui ont été votées en faveur du Mali, que ce soit la 2056, la 2075, la 2085, la 2100, 2164 et l'accord de Ouaga ne parle que de DDR. Désarmement, démobilisation et réinsertion. Pourquoi on nous ramène encore la réintégration ? On nous parle également de la création d'une police territoriale. Donc, ça veut dire déjà, ils ont tous les attributs d'un État fédéral.
Boubacar Touré, un avis sur ce statut qu'on recherche pour les régions du Nord ?
Ce qui est clair, hein, au Mali, la région n'a jamais été une unité de mesure de recrutement. Parce que à demi-mot, sinon à mot couvert, est-ce qu'on veut poser un problème de recrutement selon la peau, selon la langue, selon l'ethnie ? Le Mali n'a jamais connu cela. Ce qui reste vrai, dès le départ à l'indépendance, même avant l'indépendance, l'inscription à l'école, ça avait une force et une forme obligatoire. Et les régions se sont damées en fonction de ceux-là qui sont respectés dans cette contrainte. Et alors, les produits de cette école, c'est eux qui ont aussi répondu sur le plan administratif, dans la gestion des affaires de l'État. Mais aujourd'hui, personne ne peut me convaincre que c'est parce que tu es des Kidal ou des Kai que cela est un critère pour que tu sois de la fonction publique, privée ou de l'armée. Alors, est-ce que ça c'est un besoin pour que cela apparaisse dans une telle discussion ? On peut même dire qu'en des moments, au nom de cette rébellion, il y a eu de la discrimination qui a aussi frustré.
Vous parlez de l'intégration de certains rebelles dans l'administration.
Et ça a frustré.
Des fois.
Est-ce qu'on peut alors continuer pour résoudre un problème, créer d'autres foyers de frustration, de tension, pour finalement obtenir ce qu'on cherche par d'autres soulèvements ?
Donc vous souhaitez un recrutement à la base ?
Cela est évident. Dans une nation, il n'y a pas deux vitesses pour le même exercice. Et l'organisation de l'administration. Le gouverneur est nommé à Kai, il est nommé à Kidal, il est nommé à Tombouctou, il est nommé à Koulikoro.
Quel sera son réel pouvoir ?
Non, je viens. La forme actuelle, les gouverneurs ne sont pas nommés à deux vitesses, des gouverneurs nommés ou élus. Si c'est un besoin, c'est un besoin pour l'ensemble du territoire. Et évitons de stigmatiser. Or, il y a des propositions qui nous conduisent à la stigmatisation, à la création d'autres foyers. C'est pourquoi je dis, ce document présenté, et moi je ne le prends pas comme le document qui va faire l'accord de l'ensemble des Maliens. C'est pourquoi nous devons rester vigilants. Que ce soit des idées malsaines, glissées dans le texte, des choses qui ne disent pas leur nom, que nous restons vigilants, vigilants sur tout point qui, aujourd'hui ou demain, peut menacer l'intégrité territoriale.
Ceci est compris.
Tout point qui, aujourd'hui ou demain, peut menacer la laïcité du pays, la République.
Alors, Sbeti Ag Akado, vous êtes de la société civile. Tout ceci ne pourra se faire que si le pays est aujourd'hui dans un cadre sécurisé et où les tensions sociales sont apaisées. Aujourd'hui, pensez-vous que le Mali peut se donner les moyens d'obtenir cette quiétude sur tout l'étendue du territoire pour la mise en pratique de ces accords futurs?
Nous avons appelé à nos chevets la communauté internationale qui, il faut le rappeler, ne s'est jamais mobilisée comme elle l'a fait autour de nous. Et cela nous a tellement comblés, nous a tellement rendu optimistes qu'on ne peut pas penser un seul instant que la première tâche de cette communauté internationale évitera, n'est-ce pas, de ramener les Maliens dans le cadre qu'ils connaissent, dans le cadre qui peut les amener à l'unité. Et malheureusement, nous voyons que les choses sont en train de se décider en dehors de Mali. Et cela nous inquiète. Cependant, quand bien même qu'on n'a pas les moyens de nous défendre ou de nous sécuriser, si l'assistance de la communauté internationale est sincère, nous osons espérer que cet accord-là, nous allons le signer sur la base du droit. Tous les Maliens vont revenir à des meilleurs sentiments et la communauté internationale mettra à la disposition du Mali, comme elle est en train de le faire, là, le dispositif Barkhane. Il ne nous intéresse pas à nous seulement les Mali, il intéresse d'une manière générale les intérêts de la France. Elle a tout intérêt à sauvegarder ses intérêts à l'intérieur de, n'est-ce pas, des territoires qu'elle surveille. Et en ce moment, je dirais que les Maliens, nous sommes très très regardants sur ces questions de sécurité et nous osons espérer encore une fois que
la communauté internationale
fera le nécessaire. Cela, cependant, ne doit pas nous endormir. C'est maintenant qu'on doit nous préparer, n'est-ce pas, à mieux nous défendre.
D'accord. Alors, nous parlons un peu de sécurité dans cette zone du Nord. Amadou Goïta, le Mali a libéré 4 terroristes. Pensez-vous que le Mali et la France sont aujourd'hui deux pays soumis au diktat des groupes terroristes avec ces libérations?
J'ai comme l'impression. On ne peut pas vouloir quelque chose au contraire. On ne peut pas libérer des djihadistes.
Pensez-vous que cela rassure pour la sécurité dans le Nord?
Pas du tout. Au contraire, c'est un mauvais signal. C'est un mauvais signal. Nous n'avons pas compris. Si dans le passé cela a été fait, combattu d'ailleurs par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, je ne peux pas comprendre qu'on réédite la même chose. On ne peut pas construire la paix sans la justice.
D'accord.
Aucune paix sans la justice, aucune paix ne peut se construire dans l'impunité.
Boubacar Touré, un dernier mot par rapport à ces libérations et à la sécurité dans le Nord.
La sécurité, l'impunité est ennemie de la sécurité parce que ça encourage toujours. Mais pour ce qui est de la libération de l'otage contre la libération de bandits criminels, je demeure convaincu si l'État l'a fait. L'État a ses raisons, mais la justice passera dans tous les cas.
D'accord.
Ce qui est certain aujourd'hui, l'État dans lequel on se trouve, on n'a pas encore les moyens d'appliquer la justice à Kidal.
D'accord.
Pour appliquer la justice, il faut y être.
Ceci met fin donc à notre débat d'aujourd'hui. Merci à vous, messieurs. Les invités pour nous parler de la possibilité qu'il puisse y avoir un accord dans le Nord, ils étaient trois. Boubacar Touré, du parti Rassemblement pour le Mali, parti RPM, parti du président de la République. Un parti de l'opposition était là également, représenté par l'OPS, le Parti Socialiste, et son président, Amadou Goïta. Et nous avions également un représentant de la société civile, Speti Ag Akado, qui était là également pour nous parler au nom de la société civile. Cette émission vous a été présentée par Famoussa Sidibé. À la mise en onde, il y avait Gagné Kanté et à la réalisation, il y avait Ousmane Djadje Touré et Rokia Danyoko. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Biro.
Halo Dmoune.
Chenne Biro.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.